Okapi.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français.
Okapi.
Vous savez que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'enfant. C'est peut-être cela qui a poussé la Commission diocésaine Justice et Paix à faire une restitution et à valider les enquêtes menées sur la protection des enfants dans 6 territoires du district de Tanganyika. Il faut savoir que cette commission bénéficie d'un appui de l'UNICEF et a sorti des chiffres alarmants au cours d'un atelier qui s'est tenu dernièrement sur la situation des enfants orphelins, enfants victimes de violences, enfants non scolarisés. Environ 40 représentants d'ONG locales ont pris part aux travaux et cela en présence des autorités civiles de la place dans le but de valoriser les droits des enfants. Nous faisons le point aujourd'hui avec Françoise Abemibé et puis juste après nous recevrons l'abbé David Louhaka, il est coordonnateur de cette commission. Françoise Xavier, quels ont été pour commencer les résultats d'enquête de la commission en rapport avec la situation des enfants au district du Tanganyika?
Écoutez, Nicole Ngaka, l'enquête en soi est avant tout une initiative de la commission diocésaine Justice et Paix, comme vous venez à peine de le dire. Elle a duré au moins 3 mois dans les 6 territoires que compte le district du Tanganyika. Vous avez exactement précisé, il y a Kabalo, Kalemie, Kongolo, Manono, Moba et Nyonzou. À cet effet, 50 enquêteurs déployés ont rencontré dans chaque territoire différentes catégories d'enfants. Il y a des enfants qui vivent orphelins. Il y en a qui sont victimes de violences sexuelles, surtout des filles, des enfants vivant avec handicap, des enfants non scolarisés, des enfants dissociés, des enfants associés aux groupes armés, bref, Nicole Ngaka, des enfants à problème. Alors, je vous propose d'ailleurs d'écouter Chantal Bimbele, qui est représentante de l'UNICEF au Nord Katanga. Elle a essayé le cadre des travaux.
L'appui de l'UNICEF dans cette activité avec la CDJP a consisté à identifier les intervenants dans la protection de l'enfant au niveau du district de Tanganyika, à réaliser un état de lieu de la situation de protection des enfants dans tout le district, identifier les opportunités de réinsertion communautaire des enfants en situation difficile dans chaque territoire du district. Acteurs sociaux, vous devez tous vous impliquer, maîtriser les causes qui mènent aux situations que nous déplorons tous.
Oui, alors comment vous présentez-vous, François, le tableau des résultats d'enquête?
Ah oui, c'est vrai, c'est presque pour essayer, maintenant cette fois-ci, de répondre exactement presque à la première question que vous m'avez dû poser, Nicole Ngaka.
Oui.
Et s'il nous faut vraiment nous fier sur un échantillon prélevé sur l'ensemble des problèmes, il y a au total 19 600 enfants qui vivent exploités économiquement en famille, 11 900 enfants restent non scolarisés et 11 500 enfants autres vivent orphelins. Dans ce tableau, la localité de Manono bat le record avec un actif important d'enfants orphelins et non scolarisés, suivi de la localité de Kalemie, viennent au bas de l'échelle, tout ce tableau, macabre d'ailleurs, les localités de Kabalo et Kongolo, même si c'est vrai, Kongolo présente à lui tout seul un nombre non moins négligeable d'enfants de la rue. Une situation d'ailleurs qui préoccupe le commissaire du district de Tanganyika, Jean-Rigobert Chimanga, qui est intervenu au cours de l'atelier. Je propose de l'écouter.
Cette génération dans laquelle nous sommes ne fera pas encore 60 ans, mais ce sont les enfants après nous qui vont nous remplacer. Mais si déjà la majorité de ces enfants sont dans cette situation, quel devra être le sens des responsabilités que ces enfants pourront avoir pour mener notre société après nous? Si nous ne prenons pas soin de pouvoir protéger, encadrer et orienter ces enfants à être insérés correctement dans la communauté, nous allons sacrifier l'avenir de notre district. Nous aurons pratiquement un district qui sera plus tard gouverné par des délinquants.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants en situation difficile, des enfants orphelins, des enfants victimes de violences sexuelles, surtout les jeunes filles, des enfants non scolarisés, des enfants qu'on accuse de sorciers, et même d'autres qui sont associés aux groupes armés. Alors, quelles sont les principales causes qui expliquent cette situation d'enfants au district du Tanganyika?
Nicole Ngaka, les causes sont bien multiples à en croire aux différents intervenants de l'atelier. Chaque catégorie d'enfants présente des causes particulières. Prenons un exemple parmi beaucoup d'autres pour comprendre pourquoi la région du Nord-Katanga a connu le mouvement d'enfants associés aux groupes armés. Mademoiselle Chantal Omoi, qui est chargée de la base des données à l'ONG américaine IFESH, d'ailleurs qui s'occupe de la question, elle au moins explique.
C'est soit de la vengeance. Il a perdu ses parents par cette guerre, alors l'enfant veut se venger. La souffrance, l'influence de l'entourage, la situation des guerres, l'abandon, la séparation de deux parents, la pauvreté des parents, manque d'emploi des parents, la perte des parents.
Oui, c'est vrai. Nous invitons d'ailleurs tous les auditeurs qui nous suivent à travers le pays à réagir au 081 070 20 50. François Xavier, c'est vrai que ces causes ne sont pas à rejeter. Hein. On peut dire que Mademoiselle Chantal Omoi a bien fait de le relever. Mais comment les participants réagissent-ils à la fin de ces travaux et surtout à la fin de l'atelier?
Oui, Nicole Ngaka, tous les participants restent unanimes avant tout pour approuver tous les chiffres alarmants de l'enquête. Ils demandent ensuite à l'État congolais l'application des lois établies à ces sujets et à toutes les communautés locales une grande implication afin de vulgariser partout les lois qui protègent les enfants. Je vais d'ailleurs vous proposer Chantal Faïda, qui est coordonnatrice de l'ONG locale, le Centre d'accueil de protection des enfants en détresse CAPED en sigle, qui est active ici à Kalemi. Elle, Madame Chantal Faïda, en a profité pour interpeller la conscience des communautés locales pour l'avenir meilleur des enfants au Nord-Katanga.
Et aujourd'hui, nous allons passer, mais dans les années à venir, c'est cette communauté qu'on est en train de détruire qui va nous remplacer. Et si on abuse des enfants, vraiment, ça serait très grave parce que dans l'avenir est sombre. Parce que tous les enfants sont abusés. Il y a notre avenir qui ne va pas. Hein? Et quel sera le Congo de demain si les adultes aujourd'hui sont en train d'abuser les droits des enfants en les violant, en les détruisant, en les exposant à la mort? Mais ça sera grave. Hein?
Voilà, on aura certainement à faire le suivi avec Abbé David Louhaka, coordonnateur de cette commission. Hein. Vous savez, aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant, François Abbé Nibé, raison pour laquelle nous avons jugé bon d'en parler. Tout à l'heure, on va retrouver d'autres invités qui viendront parler de la protection de l'enfant par la police, comment la police peut protéger les enfants. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à poser des questions, à témoigner aussi au 081 070 20 50. Merci beaucoup François et à la prochaine.
À la prochaine, Nicole Ngaka.
Okapi. Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français. Okapi.
Aujourd'hui, à travers la RDC, on essaye de trouver des voies et moyens pour protéger l'enfant. Quels sont les droits des enfants? Il y a trop d'abus plutôt qui sont commis à travers le pays. Comment faire aujourd'hui pour sauver les enfants de la RDC? Nous en parlons avec l'abbé David Louhaka. Il est coordonnateur de la commission, justement la commission diocésaine Justice et Paix. Monsieur l'abbé, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, à travers la commission, vous avez essayé de trouver des solutions pour sauver les enfants du district de Tanganyika. Quelles sont les pistes de solutions que vous avez pu trouver?
Oui, merci d'abord. D'entrée de jeu, je tiens à remercier Radio Okapi pour l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir parler des enfants. Et, au fait, les opportunités ou les solutions que nous avons proposées sont de plusieurs ordres. Et ici, si vous avez été attentive aux typologies que nous avons retrouvées dans nos enquêtes, il y a 10 typologies. Et par typologie, nous avons des pistes de solutions que nous avons proposées.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, alors je disais que par typologie, il y a des solutions que nous avons proposées et préconisées. Et nous avons d'abord le cas des enfants dissociés.
Oui.
Vous savez, si vous avez bien vérifié le tableau, vous vous rendrez compte que le territoire de Kalemie, c'est le territoire qui au fait a beaucoup d'enfants dissociés, et pour cette raison-là, nous avons par exemple proposé d'abord de sensibiliser la communauté à ce phénomène-là. Parce que de plus en plus, dans notre communauté, il y a une mentalité qui est en train d'émerger. Il y a des gens qui, au fait, par des crises de pauvreté, un problème de ménage ou quoi, ils rejettent des enfants en disant que c'est des sorciers. Et nous avons d'abord préconisé et sensibilisé la communauté à la prise en charge et l'acceptation de ces enfants-là, dits sorciers.
Oui, mais est-ce que la sensibilisation suffit à sauver ces enfants qui sont accusés de sorcellerie? Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas seulement une réalité à Kalemi. C'est un peu partout, hein, aujourd'hui en RDC, qu'on accuse certains enfants de sorcellerie. C'est un problème réel un peu partout. Donc vous avez relevé notamment une solution, notamment la sensibilisation pour les enfants accusés de sorcellerie. Hormis les enfants accusés de sorcellerie, vous avez aussi relevé un autre problème. Ce sont les enfants qui sont en situation familiale difficile, hein, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait. Il y a l'état des enfants orphelins, par exemple. Il y a les territoires de Manono qui bat aussi les records, qui a le plus grand chiffre pour ce qui est des enfants orphelins. Et là, nous avons préconisé, par exemple, l'accompagnement psychosocial de ces enfants-là. Vous savez, il y a des enfants qui, une fois mis dans des familles comme orphelins, ils sont traqués par les oncles, par des tantes, par des voisins, tout ça. Et il y a même des enfants de moins de 5 ans qui, au fait, à cet âge-là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de parents. Alors, ils sont menacés, ils sont traqués. Et nous avons estimé à ce niveau-là que ces enfants méritent un certain accompagnement.
Mmh.
Ça, c'est la solution que nous avons préconisée pour cette catégorie-là. Évidemment, il y en a beaucoup. Nous avons aussi, au niveau de l'autorité, vous savez, si nous sommes en but à de telles situations, nous avons conclu et dit que c'est l'État d'abord congolais qui doit se charger de protéger les enfants. Et nous avons dit qu'il faut des plaidoyers au niveau de l'État. Il faut que l'État congolais arrive à faire en sorte que les droits des enfants soient respectés. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que des enfants, c'est des choses, alors que des enfants, c'est l'avenir de demain.
Tout à fait. Alors, nous retenons que vous n'êtes pas les premiers à prendre de telles décisions. D'autres avant vous, hein, ont eu à prendre les mêmes dispositions. Mais on a l'impression que ça n'évolue pas. Aujourd'hui, on peut dire que la situation de l'enfant est en péril. Il y a un danger qui menace l'avenir de l'enfant. Vous avez l'impression que l'État congolais a failli à sa mission de ce côté-là?
Oui, l'État a failli, bon, ça dépend, bon, peut-être c'est le cas de le dire, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes de suppléance qui sont mis en jeu. Par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui travaillent, qui sont à la rescousse de l'État congolais. Il y a des ONG qui font ce travail-là. C'est vrai que l'État est le premier, il doit faire ce travail-là en premier, mais il y a aussi beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG qui font ce travail-là. Et nous sommes, en faisant ce travail, c'est un document d'ailleurs, je l'ai devant moi ici, en faisant ce travail, nous avons voulu disponibiliser un document qui aiderait beaucoup d'organisations et même l'État à pouvoir avoir des pistes de repères pour la prise en charge des enfants qui sont en situation difficile.
Mmh. Nous savons que dernièrement, la ministre de la Condition féminine, Mme Omatoukou, a annoncé que le gouvernement vient d'adopter le code de protection de l'enfant, qui est entendu comme une loi nationale renfermant les dispositions de protection et de promotion des droits de l'enfant. Est-ce que vous pensez que le code de protection de l'enfant peut amener des changements positifs?
Oui, je crois que oui, mais moi j'aimerais souligner une chose à ce niveau-là. Vous savez, ici chez nous au Congo, il y a trop de textes légaux, il y a beaucoup de textes chaque jour, le Parlement siège, celui-là siège, on produit beaucoup de textes, mais il y a peu de suivi. Je vous donne l'exemple des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Nous avons une loi qui est sortie l'année passée, une loi qui a été promulguée et que tout le monde semble connaître. Nous avons ici beaucoup de cas d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles, mais il se pose un problème de suivi. Moi je crois qu'on peut promulguer beaucoup de textes, mais il s'avère aussi important qu'au niveau de la base, qu'au niveau de chaque communauté, qu'on mette des mécanismes de suivi. Peut-être que les autorités qui sont à la base, la DIVAS, la CONDIFA, les ONG, tout le monde, les églises, qu'on fasse une synergie. On ait un réseau de suivi. Parce qu'on aura beau faire des lois, mais si ces lois ne sont pas suivies, si leur application n'est pas rigoureuse, tu vois qu'on perd le temps. Et moi, c'est ça, au fait, le but de ce travail. Donc, je voudrais demander pour tous les acteurs qui sont dans la chaîne de la protection de l'enfant, puissent se coller, puissent se liguer, pour faire le suivi de tout ce qui est arrêté comme mesure.
Raison
pour les lois en soi, elles sont muettes.
Oui.
Elles sont muettes si elles ne sont pas suivies.
Mmh. Raison pour laquelle vous, en tant qu'abbé, hein, abbé David Loaka, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes à travers la commission diocésaine, hein, justice et paix.
Tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui sont dans notre diocèse du Tanganyika, moi-même j'ai d'ailleurs le privilège de faire le tour du district. On a fait un tableau et avec ce tableau, nous pensons donner un document à tous les acteurs qui œuvrent dans la protection de l'enfant au niveau du district de Tanganyika, pour que chacun, à ce qui le concerne, voit ce qu'il peut faire.
Oui,
c'est vrai que, vous l'avez souligné, On n'est pas le premier à faire ce travail, mais nous, on voudrait qu'il y ait des suivis qui se font.
Qui est quand même une singularité dans ce que vous faites, parce qu'il ne faudrait pas faire la même démarche, monsieur l'abbé. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la CDJP, donc attendez par là, la commission diocésaine justice et paix. Vous avez parlé tantôt là de l'accompagnement psychosocial. En quoi il consiste concrètement?
Au fait, l'accompagnement psychosocial consiste à suivre l'enfant dans tout ce qu'il présente comme signe psychologique, parce que vous savez, quand vous avez des personnes qui sont en situation difficile, ils présentent des signes un peu de déficience, ils ont des problèmes, tout ça. Alors, en faisant un accompagnement psychosocial, on va suivre l'enfant, on va l'interroger, on va parler avec lui et tout ça. Alors, en parlant avec lui, on peut découvrir certaines causes qui sont à la base de certains maux qu'il manifeste. Et après, on pourrait l'aider de par des conseils et voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Parce que, vous savez, l'homme est différent d'un animal. Vous savez, chaque homme présente des spécimens qu'il faut suivre. Et c'est à travers cet accompagnement psychosocial que nous pouvons déceler ce que nous pouvons faire exactement pour chaque enfant qui est devant nous.
Oui.
On n'a pas de solution toute faite pour tous les enfants. Nous avons ces semaines-là d'accompagnement psychosocial qui nous donne un peu les pistes pour le travail.
Oui, mais parlons d'un autre problème. C'est un phénomène qui est de plus en plus réel un peu partout au Congo. Le phénomène d'enfants accusés de sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à ce code qui va être normalement adopté au niveau du Parlement, on pourrait punir les auteurs de ces crimes. Parce que bon, comment est-ce qu'on peut arriver à accuser un enfant de sorcellerie? On ne sait pas comment les punir, mais grâce à ce code de protection de l'enfant, on sait maintenant comment gérer ce problème. Vous en êtes conscient, monsieur l'abbé?
Oui, tout à fait. Vous savez, on en a parlé d'ailleurs au début. Vous savez, moi, personnellement, je souhaiterais que ce code soit promulgué, vulgarisé, de sorte que tous ceux qui targuent les enfants des sorciers soient sérieusement punis. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré, et je suis prêtre, j'ai toujours considéré que si sorcellerie y a un enfant, moi, j'ai toujours pris ça comme étant une lésion, une maladie. Quand quelqu'un est malade, ce n'est pas pour autant qu'on doit le rejeter. Quand quelqu'un est malade, il y a ce qu'on doit faire pour ce malade. Il y a des soins, il y a des cures qu'on doit lui administrer. Et quand un enfant est taxé de sorcier, encore faudra-t-il vérifier qu'il est réellement sorcier. Ça, c'est la grande équation, la grande question. Si un enfant est dissocié, je pense qu'il y a des mécanismes. Le premier mécanisme, ça passe d'abord le protéger. Et puis après, voir ce qu'on pourrait faire pour cet enfant-là.
C'est
donc pour laquelle nous, à notre niveau, nous pensons que ceux qui targuent les enfants des sorciers, on doit les mettre en prison. Parce que les enfants sont des innocents. S'ils sont sorciers, c'est parce que certains adultes ont fait des sorciers.
Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la justice est limitée devant ce problème. La justice n'arrive pas à punir les parents qui sont responsables de ce phénomène, à punir les églises de réveil qui sont responsables de ce phénomène. Et peut-être que maintenant, il y aura des évolutions. On pourra freiner tant soit peu le phénomène enfant dit sorcier.
Oui, à notre niveau, quand on a organisé l'atelier, justement, cette question nous a beaucoup retenus. On a pris, je pense, au moins 45 minutes et on est à discuter. Alors, nous, à notre niveau, ici à Calémé, nous avons proposé d'organiser un forum où on parlerait d'abord de la sorcellerie. Un forum. C'est vrai que la justice est limitée, mais à notre niveau, on a proposé d'organiser un forum où on va parler de la sorcellerie. Mais alors, nous avons ensuite dit qu'il faut qu'on arrête des mesures sévères à l'égard des églises qui au fait traînent les enfants dans les chambres de prière. Vous savez, les chambres de prière, je pense, à mon humble avis, je ne critique pas certaines personnes, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Et puis on ne peut pas même imposer à quelqu'un une cure dont il n'a pas besoin.
On verra comment les choses ont évolué. On peut tout dire aujourd'hui, malheureusement, compte tenu du temps, Abbé David Lourinca. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la commission diocésaine justice et paix pour le district de Tanganyika. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup, madame.